Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible dans le premier livre de la Bible. Voilà, je vous garantis qu'on n'ira pas jusqu'à la fin. Ça fait un peu beaucoup d'aller jusqu'à l'Apocalypse dans le commentaire. Mais bon, livre de la Genèse, et j'aimerais vous parler d'une dame, d'une femme. Alors, mesdames, vous allez bien écouter. J'espère que vous serez satisfaites de ce que je vais dire. Voilà. Il s'agit de Rebecca. Ça vous dit quelque chose, Rebecca? Oui. Et nous allons faire un commentaire sur sa personne, son attitude, son comportement. Et c'est intéressant parce que le titre que j'ai donné à ce message, vous avez connu les malheurs de Sophie. Oui, tout le monde l'a connu, enfin peut-être les petites filles, maintenant c'est fini parce qu'on ne dit plus des choses comme ça. Mais je voudrais vous parler des malheurs de Rebecca. Alors nous allons prendre ce texte, Genèse chapitre 27. Et verset 41, et c'est une exhortation ce matin, hein, c'est pas autre chose que d'un enseignement et d'une exhortation. Et permettez-moi, si je parle de Rebecca, qui est une femme, c'est vrai, qui a certaines prestances et qui est femme d'un patriarche biblique, ça peut valoir aussi pour les hommes, hein. Alors, on va lire cette partie de ce chapitre 27, verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi et fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. » Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? Voilà pour la situation sur laquelle nous allons réfléchir quelques instants. À vrai dire, Rebecca est une femme malheureuse, comme nous allons le constater. Mais l'origine de ses peines et de ses chagrins ne viennent pas des autres. Parce que elle a tout fait pour provoquer son propre malheur. Je dis, ça vaut pour un homme comme pour une femme. Et on a des exemples masculins dans la Bible où, eh bien, certains se sont trouvés dans une grande déconvenue, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas imputer leur situation à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. On en parlera à travers d'autres textes bibliques d'ici quelques instants, mais quand il est dit que celui qui sème le vent récolte la tempête, ça c'est une maxime que nous connaissons bien. Et nous voyons que, à travers tout cela, à travers l'histoire de la vie de Rebecca, qui était pourtant, eh bien, nous pourrions dire, choisie, qui est devenue la femme d'un patriarche qui s'appelle Isaac, avec une alliance et un mariage étonnant, et qui est rentrée en quelque sorte dans le peuple de Dieu, elle qui était en quelque sorte, eh bien, on pourrait dire une demi-étrangère, mais elle fait partie du peuple de Dieu. Alors, nous allons en quelque sorte considérer le canevas. Vous savez ce que c'est qu'un canevas, mesdames? Moi, j'en ai jamais fait, mais je sais que certaines vous y a donné. Le canevas des nombreuses peines de Rebecca. Et ça nous va nous aider à comprendre un peu ce qui s'est passé. Je voudrais mettre devant vous d'abord la toute première cause de ces difficultés et de ces problèmes, et je vais tourner simplement une page de notre Bible au chapitre 25, et il est dit ceci au verset tout simplement là 27 et 28 de ce chapitre. Il est dit ceci, et nous l'avons vu vendredi soir puisque ça a été le thème de notre réunion d'évangélisation. Je voudrais vous dire simplement que tous les vendredis soirs à 20h30, nous avons des réunions d'évangélisation qui peuvent être fort intéressantes pour découvrir, eh bien, certains textes de la Bible, qui sont peut-être pas tant des études, mais des appels, en quelque sorte. Alors, je le dis au passage, et c'était sur ce thème que nous avions donc parlé. Il nous est dit au verset 27, « Ses enfants grandirent ». C'est-à-dire Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et c'est le verset 28 qui est intéressant. Isaac, le père, aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Il ne nous est pas dit pourquoi elle aimait Jacob, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que Ésaü aimait son fils parce que c'était un chasseur, mais bon, c'est pas notre propos ce matin. Vous savez ce que nous considérons dans cette affaire? C'est un problème. Un problème de toujours. Un problème familial. Un problème parfois de couple. C'est le favoritisme par rapport à nos enfants. Et c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance et un déchirement pour les enfants eux-mêmes. Vous avez remarqué, Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Ça paraît surprenant, parce qu'on se dit, quand on a des enfants ensemble, on n'aime pas l'un plus que l'autre. Pourquoi? Quelles seraient les raisons? Parce que ce sont nos enfants. On n'a pas à avoir de préférence. Et chacun avait certainement, eh bien, sa raison d'aimer l'un, peut-être au détriment de l'autre. Alors, en ce qui concerne Isaac, c'est vraiment très puéril et c'est très basique. Tout ça parce que c'était un chasseur et qu'il faisait plaisir à son père, parce qu'il aimait bien le gibier, notre ami Isaac. Enfin bon, c'est bien, mais voilà, ça vole, excusez-moi, pression, ça vole pas haut. Mais en ce qui concerne Isaac, en ce qui concerne Jacob, les raisons, nous allons les découvrir. Pourquoi aimait-elle le deuxième plus que le premier? Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous que de toute façon, familialement, on ne doit pas avoir de préférence. Nos enfants sont nos enfants. Peut-être trouvons chez certains un caractère physique ou un caractère moral ou je ne sais quelle aspiration que nous retrouvons, peut-être que nous savons en nous-mêmes. Mais c'est vrai que le favoritisme, c'est quelque chose qui est quand même dangereux parce qu'il peut se retrouver également dans bien d'autres situations sociales. Professionnel. Il peut se retrouver également, surtout pour ceux qui ont de l'ascendant sur les autres. Il peut se retrouver dans une église, figurez-vous. Ah, vous savez, moi, j'aimais bien et j'aimais beaucoup le précédent pasteur. Parce qu'il était comme ça, il était ceci et cela. Je dis pas ça pour moi, hein. Parce que vous pensez ce que vous voulez, mais ça ne changera rien, parce que moi, je vous aime. Et c'est vrai. Je le dis. Parce que moi, je fais pas de différence. Mais, ça peut être comme ça. Moi, j'aime bien ce frère ancien quand il prêche par rapport à un autre. Écoutez, ne nous livrons pas à ça parce que nous sommes que des messagers et que ce qui est important, c'est le message. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Alors, ça fait un mal terrible, le favoritisme. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont peut-être un petit peu plus gentils que d'autres, un petit peu plus tendres, un peu plus affectueux. Alors là, dans ce cas-là, les choses, les affinités se... coulent de source, en quelque sorte. Mais écoutez, vous savez, dans la parabole du fils prodigue, le père, il a pas fait la différence entre le premier et le deuxième. Hein. Et pourtant, le deuxième, je peux vous dire que les 400 coups, il les avait fait. Hein. Et quand il revient à la maison, eh bien, il lui montre tout son amour. C'est comme ça qu'on gagne nos enfants, sans favoritisme. Ça, c'est la première cause. Et c'est une cause importante dans les malheurs de Rebecca. Et puis, je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, parce que c'est quand même assez étonnant, qu'on porte un nom qui nous révèle dans notre tempérament et notre caractère. Il y a peut-être des gens, des Pierre, des Jeanne, des Louis, enfin je ne sais pas, au milieu de nous. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a quand même une signification, surtout dans les noms hébreux. Et c'est quand même assez intéressant que nous puissions jeter un regard sur la signification de Rebecca. Moi j'ai cherché l'étymologie de mon nom, j'ai pas trouvé grand-chose, hein. C'est pas un nom hébreu de toute façon. Hein. Je sais que j'avais un arrière-arrière-grand-père qui était roi. Roi de Bretagne, vous allez à Pornic, j'ai construit un château, enfin mes ancêtres ont construit un château, et c'est Alain II, vous vous rendez compte? Oh, j'aurais voulu être le premier, hein. Mais bon, c'est comme ça. Peu importe, on revient à Rebecca. Le nom de Rebecca, dans sa signification, dans son étymologie, vous allez être surpris, hein. Vous pouvez me le dire? Non, vous ne savez pas? Ça veut dire « nœud coulant ». Nœud coulant, ou encore celle qui flatte. Alors c'est pas forcément très très bénéfique, mais c'est ce que ça veut dire, hein, nœud coulant. Parce que il y a après le favoritisme un autre problème qui peut détruire notre vie. C'est la flatterie. Vous savez, il y a toujours des gens, alors c'est une image, hein, que l'on prend pour expliquer les choses. Il y a toujours des gens qui viennent vers vous avec un grand sourire et qui vous passent la main dans le dos. On appelle ça de la pommade. Enfin, je ne sais pas quelle est la composition, mais ouais, c'est ça. Ils viennent et ils vous disent des compliments, etc., etc. Et le problème de Rebecca, partagé avec son mari dans le premier cas, c'est-à-dire le favoritisme, le deuxième, c'était la flatterie. Alors, ça lui fait beaucoup déjà au départ pour composer. Mais on peut avoir tous ces défauts. C'est vrai, on peut les avoir, naturellement, à l'origine. Mais n'avons-nous pas un Dieu qui est capable de nous changer, de nous transformer? Et le problème de Rebecca, c'est qu'elle n'a pas voulu être changée et transformée. Elle est rentrée dans une famille de patriarches hébreux, où il y avait quand même, eh bien là, toute une histoire. Un homme comme Abraham, le grand-père, était un homme d'exception par rapport à la foi et par rapport à son obéissance à Dieu. Mais elle n'en avait rien fait. Alors, c'est bien dommage d'être dans des conditions favorables pour naître de nouveau, changer et ne rien faire. Alors on va aller maintenant dans le détail de notre récit et je vais le faire, je l'ai pas lu tout le texte, mais on va finir par le lire finalement dans ce que nous rapporte tout ce paragraphe que nous avons donc devant les yeux. Alors, le verset 5 nous dit une chose, vous l'avez devant les yeux, « Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. » Qu'est-ce que cela peut vouloir bien dire, cette histoire? C'est que, à un moment donné, notre brave Isaac a eu une fringale. Il a eu envie de manger du gibier, et il a demandé à son fils préféré, naturellement, le chasseur, d'aller lui chercher du gibier. Alors, c'est ce qu'a fait Isaac, tout simplement. Mais il y a une petite conversation avant, et là, nous avons pris la fin de la conversation au verset 5. Et c'est intéressant parce que, remarquez ce qui est dit, Rebecca écoutait ce que Isaac disait. Troisième chose qui peut être préjudiciable à notre vie, c'est une curiosité malsaine. Il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui ne les regardent pas. D'entendre des conversations, d'entendre et de voir par le trou de la serrure, si on peut s'exprimer de cette manière. Et elle faisait preuve d'indiscrétion parce que le père parlait à son fils, Isaac parlait à Ésaü, et elle n'avait certainement pas à écouter la conversation, même si c'était la maman. Mais comme c'était pas son préféré, elle voulait quand même savoir ce qu'il disait et ce que son mari pouvait dire. Et pourtant, c'était des choses très importantes, puisqu'on va le voir. Elle écoutait, figurez-vous, aux portes. Moi, je voudrais remettre les choses en place ce matin, et c'est une exhortation, vous comprenez, moi j'ai rien. Mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible nous demande de nous occuper de nos propres affaires, et pas celles des autres. C'est vrai. Parce que dans une église, comme dans une famille, eh bien, ça peut faire des dégâts considérables. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où la rumeur, la calomnie, l'indiscrétion. On le voit dans le monde journalistique, dans le monde social, dans le monde politique. Ça devient trop, c'est trop. Et je pense que nous ne devons pas faire comme le monde, mais nous devons avoir l'honneur de respecter ce que Dieu nous demande de respecter. Et les indiscrétions, parler trop, rapporter des choses et en plus les déformer, ça c'est quelque chose de pas bien. Elle l'écoutait. Alors avait-elle bien entendu ? Je crois qu'elle avait bien entendu. Mais quand on entend bien et des choses qui sont vraies, et les rapporter pour que tout le monde le sache, ça s'appelle de la médisance. Et figurez-vous, la médisance, c'est fait pour se servir de ce qui est vrai et ainsi discréditer les autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de dire, l'indiscrétion, et gardons-nous. Gardons-nous de rapporter des choses. Oui, gardons-les pour nous. Maintenant, on va peut-être pas les garder pour nous, on peut peut-être en parler au Seigneur dans la prière, en faveur de celui ou de celle-là qui parle trop. On peut toujours parler au Seigneur, il n'y a aucun problème. Ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas plus haut, puisque c'est déjà au maximum, hein, c'est l'infini. Alors ça, c'est un problème. On a vu déjà le favoritisme, la flatterie, et nous voilà dans la curiosité, chez Rebecca. Et puis on va poursuivre dans le verset 6, jusque un petit peu plus loin. « Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, sous-entendu après avoir entendu, après avoir naturellement reçu satisfait sa curiosité, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère, apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Imaginez-vous, c'était la bénédiction patriarcale réservé au premier-né. C'était quelque chose d'une immense importance dans ce temps-là. « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Donc, il y a deux bénédictions, là. Bénédiction de l'un, et puis bénédiction de l'autre. C'est une course de vitesse quelque part, parce que pendant qu'Isaac va aller faire son petit tour pour aller chercher du gibier, il y a quelque chose qui se prépare à la cuisine, là, mais d'une autre manière. Et l'enjeu, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, quand je lis ce texte et que je l'examine, je m'aperçois que c'est un petit peu le remake de Caïn et Abel, hein, parce que c'était quand même une histoire de bénédiction là aussi. Hein. Le premier et le deuxième qui veulent offrir quelque chose et sa part, c'est cultuel. Qui part d'un bon sentiment de dire « Seigneur, regarde mon offrande, elle est mieux que celle de mon voisin. » Mais là, c'est pas l'un et l'autre qui choisit, c'est Dieu qui choisit. Où il porta un regard favorable sur Abel. Et puis, Caïn n'a pas été content, naturellement. Alors, on se retrouve un petit peu dans la même configuration. Maintenant, on ouvre une nouvelle page du caractère de Rebecca. C'est l'intrigue et ses suites. Elle entend, elle se dit « Maintenant, ça y est !» Le patriarche va bénir son fils premier-né, Isaac va bénir Ésaü. Et c'est la précipitation, parce que c'est le branle-bas de combat. Il faut que son petit chouchou, eh bien, soit béni avant l'autre. Alors, s'il est béni avant l'autre, l'autre, il n'aura pas de bénédiction, naturellement. Ça se comprend. Rebecca est une femme qui est très habile dans les petits arrangements, pas très honnête. Vous savez, quand on est chrétien, il faut être juste. Il faut être droit. Il faut avoir une droiture de cœur. Parce que quand on veut gagner, on perd. Quand on veut gagner, malhonnêtement. Mais quand véritablement on est désintéressé, on dit « Seigneur, c'est pas moi qui choisirai, c'est toi qui choisis, Dieu nous donne le meilleur. » C'est toujours comme ça que ça se passe, non? C'est comme ça que ça se passe. Et cela va déclencher de grandes trempettes imprévisibles. Ah oui, ça va être imprévisible ce qui va se passer. Vous savez, ça se passe dans le côté domestique, une maison, une famille, deux frères, un père, une mère. C'est tout à fait naturel tout ça. Mais ça va avoir des répercussions non seulement sur cette famille, ça va avoir des répercussions sur les deux garçons, ça va avoir des répercussions dans toute l'histoire du monde. Je dis bien l'histoire du monde, à commencer par Israël. Eh oui, vous savez, aujourd'hui, s'il y a tous les conflits que nous avons multimillénaires, c'est quand même qu'il y a des raisons. Et la Bible nous ouvre un voile, elle nous découvre un voile, elle lève le voile sur certaines raisons de nos problèmes actuels. Oui, oui, en 2014. Hein. Eh oui, quand on suit un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais un peu plus loin au verset 11. Il est dit ceci, « Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, il est velu, et je n'ai point de poil. » Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que le mot d'Ésaü, ça veut dire poilu, ça veut dire velu, et quelqu'un qui a une chevelure et qui est hirsute, donc c'était sa morphologie, il était comme ça. Hein. Et puis Jacob, ben, il avait l'air d'être glabe, excusez-moi l'expression, mais c'est un mot juste de toute façon, c'est que il va se passer quelque chose avec cette histoire-là de comportement, enfin plutôt de physique, quelque part. Hein. Alors, peut-être mon père ne me touchera-t-il pas, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, quelle malédiction, mon fils? Que cette malédiction retombe, mon fils, sur moi. Écoute maintenant ma voix et va me les prendre. Elle n'a pas peur, Rebecca. Elle est téméraire. La témérité n'est pas forcément une bonne chose. Et on en déduit que dans cette affaire, elle va dire un petit peu comme les Juifs au moment de la crucifixion de Jésus, que le sang de ce juste retombe sur nous et sur la nation. Ah, ça n'a pas raté, hein. C'est pas raté. 40 ans après la crucifixion de Jésus, ça a été la destruction de Jérusalem, selon cette imprécation que les Juifs s'étaient donnée à eux-mêmes, avec la destruction donc de la ville de Jérusalem par le général romain Titus, et qui a produit tout simplement la diaspora mondiale des Juifs dans le monde entier. Alors c'est ce qu'elle dit, hein, que cela retombe sur moi, tracasse pas, c'est une petite affaire de rien du tout. Ça. On peut se permettre de mentir, et puis voilà, ceci et cela. Pour nous dire ceci, c'est qu'on ne défie jamais la vérité. Ah oui, ça s'il y a une chose que nous devons respecter, c'est que la vérité, elle remontera toujours à la surface d'une manière ou d'une autre. On ne défie jamais la vérité impunément. Jacob a une conscience, parce qu'il dit, mais maman, non. C'est un mensonge, mais il a raison, Jacob. Mais Jacob, il est faible, parce qu'il trouve aussi quelques racines qui l'avantagent, que quand on sait que le mot de Jacob, ça veut dire supplanteur, ça veut dire trompeur et menteur. Donc les noms ont une signification, c'est pas pour rien tout cela. C'est pour ça qu'un jour, lorsqu'il fera cette expérience capitale au torrent de Jacbot, Dieu lui dira, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, vainqueur de Dieu. Tu as vaincu avec Dieu. Tu as vaincu sur ta propre nature, tu as vaincu sur ton propre tempérament, sur ta tortuosité, sur ce que tu es naturellement, maintenant tu vas devenir un homme spirituel, un homme qui va être changé et transformé. Alors, il a une conscience, mais il cède à la manipulation de sa mère. Eh oui, maman est très 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 impressive, hein, auprès de Jacob. C'est comme ça que les choses sont ainsi. Et nous allons voir que c'est la mère elle-même qui encourage son fils au mensonge. Vous ne trouvez pas qu'il y a un retournement quand même des choses? Les parents chrétiens n'encouragent jamais les enfants au mal. Il faut leur dire la vérité. Et plus tard, ils vous diront la vérité aussi. Et d'avoir des relations de vérité va, eh bien, tout simplement faire un socle et un fondement de confiance entre parents et enfants. Faut avoir peur, hein. Et je vous l'ai quelquefois dit, c'est pas parce qu'un enfant va casser un vase que vous aimez bien, où on donne une importance terrible, alors qu'on va le punir pour ça, et qu'on va passer sur des petits mensonges. Vaut mieux être plus sévère sur les questions de principe qu'un vase qui est cassé. Comprenez? C'est vrai que c'est désagréable. Mais nos enfants, nous devons les éduquer dans la droiture et dans la vérité. Parce que quelquefois, on se trompe d'objet. Donc l'encouragement au mensonge. Nous allons et nous poursuivons, il nous est dit au verset 17, « Et Rebecca plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. » Il y a là une complicité coupable. Encore un autre point. Complicité coupable, avons-nous dit, qu'elle avait préparé. Jacob, lui, dans un premier mouvement, dit « Non, maman, c'est du mensonge, je ne veux pas faire des choses comme ça. Je vais tromper mon frère, mais je veux surtout tromper mon père. C'est pas possible. » Et il donne lui-même les conséquences. Il dira « Mais si je fais cela, je vais recevoir une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Il a raison, Jacob, mais il est faible. Tout simplement. Et ces mots qu'elle avait préparés. Observons que chez Rebecca, il y a de la préméditation pour un but à atteindre. Persuadée qu'on parvient à la bénédiction au mépris des principes de justice et de vérité. Eh bien, mes frères et sœurs, il est peut-être aussi le moment de le rappeler, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Vous savez, David, après sa chute vertigineuse, on ne peut pas dire moins, dans le chapitre 51, le psaume 51, quand il dira en pleurant à Dieu, « Mais crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Change-moi, Seigneur, parce que si je suis seul à me débattre de ma personnalité, mais j'y arriverai jamais. » Et il pleure, David. Le livre, la lettre de Paul aux Galates, nous dit en substance cette parole. Elle nous dit ceci, au chapitre 6 et versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair selon sa nature, ses instincts et ses impulsions, je suis en train de lire les textes, pour sa chair moissera de la chair la corruption, c'est logique. Mais celui qui sème pour l'esprit moissera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, même lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes provoqués, lorsque nous sommes rejetés. Non, on ne se lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, et c'est le moment, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Eh oui, c'est Paul qui nous donne et qui associe finalement la vie chrétienne, le caractère, la moralité de la vie chrétienne, eh bien, toutes ces choses, autrement, on ne peut pas parler de moralité. Et je ne fais pas de moraliste, je le dis. L'évangile, ce n'est pas du moralisme. Mais ce sont quand même les principes que Dieu a mis dans notre conscience et que nous retrouvons dans la parole lorsque nous la lisons. Et lorsque nous devenons une nouvelle créature, eh bien, ça coule de source. Il ne peut pas en être autrement. Alors, la supercherie va s'accomplir à la lettre et la bénédiction paternelle qui est détournée à ce moment-là échoua, eh bien, tout simplement à Jacob. Et nous allons voir un peu la suite. Il vint vers son père et dit « Mon père » et Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit, vous comprenez, il a pris la place de l'autre. Hein. Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné, c'est que du mensonge. Hein. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Parce que le but, il était là. Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Quel menteur ! Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir, il y a un petit doute quand même, hein, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Il était pas trop fou, hein, quand même, le père, là. Hein. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et lui dit, il a un doute, hein, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Vous vous rendez compte, hein, la surenchère dans le... Il y a quand même une étude, hein, il y a un examen, il y a une mise en examen, là. Il continue à mentir, hein. Mais il ment pas de lui-même parce que c'est sa mère qui lui a demandé de mentir. C'est pas beau, hein. C'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et lui apporta ainsi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et lui dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis, c'est ce qui s'est passé, et que les nations se prosternent devant toi, c'est ce qui se fait encore. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir de Jacob. Et là, c'est où Isaac, où Ésaü va rentrer. Ça s'est accompli par la supercherie, par un vol de la bénédiction. Un père trompé, un père qui est floué. Alors, en allant plus loin, nous pouvons voir dans quel état était tout simplement Isaac. Au chapitre 27 et au verset 1er, il nous est dit que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors c'est vrai que ça nous sert quand même des yeux. Quelquefois, moi, ça m'embarrasse en ce moment. Mais une chose qui est certaine, c'est que il avait perdu peut-être la vue, le vieil Isaac, mais il avait perdu aussi la vue au niveau de son âme. Hein. Ah oui. Il s'était laissé entraîner dans tout simplement une vie qui ne se passait qu'à manger. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'était appesanti sur les choses qui avaient qu'une valeur secondaire, mais il en avait oublié l'essentiel. Et on comprend que dans tout ça, eh bien, il soit tombé dans le piège. Mais il nous est dit au verset 30 à 33, on continue. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, qu'Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. » Lorsqu'Isaac entendit ces paroles, ou les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Ah, ça, c'est véritablement un frère maintenant, Ésaü, un frère qui est prêt à tirer vengeance de l'affront. Vous savez, il faut mieux se faire des amis que des ennemis. Hein. Et il y a parfois des frères qui sont devenus ennemis. On appelle ça les frères ennemis, naturellement. Et quand on lit aussi la suite, hein, on va le découvrir ensemble, au verset 34. « Alors Ésaü entendit donc les paroles de son père, ce que j'ai lu tout à l'heure, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, est-ce que, parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas que cette seule bénédiction, mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, c'est le contraire, hein. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça, c'est le contraire de la bénédiction usurpée qui avait été donnée précédemment. Une vérité à souligner au passage, c'est que Dieu sait tout. Ouais. Dieu sait tout, et les secrets les plus gardés seront toujours dévoilés. Quelquefois, lorsque je regarde des commentaires ou des affaires judiciaires, ce qui peut m'arriver, c'est intéressant, quelquefois je me dis, mais où est la vérité dans tout cela? Quelquefois ça dure des années, un procès. Mais une chose que, ça c'est la terre. Ça, c'est les hommes du monde, c'est les hommes de la terre. Mais il y a une chose qui est certaine, et le livre de l'Apocalypse le dit, c'est que tout sera mis à la lumière. et il y aura des choses qui vont être étonnantes. De l'autre côté, il y a des choses qui vont être étonnantes. L'Église ne participera pas à cela, puisque nous sommes en Jésus-Christ, et nous passerons devant le tribunal de Christ qui ne sera pas un tribunal de condamnation, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, il y aura certainement des choses de notre histoire, de l'histoire de notre temps, de notre passage sur la terre, par rapport à tout ce que nous avons connu, où il n'y aura que la vérité, ça sera la transparence parfaite, céleste et totale. L'illustration nous est donnée par Luc, par exemple, au chapitre 12, quand il nous dit ceci, Jésus nous dit ceci, que tout ce qui est caché sera mis en lumière. Tout ce qui est crié sur les toits, tout ce qui était caché, eh bien, sera crié sur les toits. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Alors, les conséquences ne se font jamais attendre très longtemps. Et le verset 42, nous l'avons lu, et je vais le relire, puisque c'était le thème que nous avions choisi tout à l'heure. 42-43, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. » Tout simplement. On rapporta à Rebecca, elle qui rapportait des choses, Berlon l'aurait apporté. Vous savez, c'est toujours un petit peu effet boomerang, hein. Quand on est un rapporteur, eh bien, on nous rapporte aussi, finalement, quelque part, quelque chose. Et elle va lui dire, il veut tirer vengeance de toi, et il veut te tuer. Mais dites-donc, qui est à l'origine de la chose? Est-ce que c'est Jacob ou sa mère? C'est bien Rebecca qui est au cœur du problème, là, maintenant. Mon fils, écoute ma voix, ça fait deux fois, la première fois, au moment de séduire Jacob, son bien-aimé, son chouchou. Elle lui a dit, écoute ma voix, mon fils, je suis de bon conseil. Et là, quand la catastrophe arrive, quand il y a les conséquences de ces inconséquences à Rebecca, elle parle de cette manière, écoute ma voix. Alors, une fois, quand on s'est fait avoir, on suit pas, hein. Vous savez, quelquefois, c'est terrible de voir des gens qui se font avoir. Ça peut arriver, hein, dans la vie, tout simplement, notre vie régulière, à l'extérieur, séculière, on pourrait dire. Mais quand on se fait avoir une fois, deux fois et trois fois et ceci et cela, c'est terrible, hein, de ne pas tenir compte des leçons et peut-être même des avertissements que nous avons reçus. Moi, ça m'est arrivé dans le ministère pastoral de voir, de prévenir des gens, de lui dire « Attendez, il y a un danger !» Ils y vont une première fois, on se dit « Bah, ils vont comprendre. » Voilà. Mais après, quand ça se recommence et recommence, on se dit « Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Vous savez, notre cœur naturel, il est beaucoup plus enclin à croire au mensonge qu'à croire à la vérité, hein. Quand on dit aux gens, eh bien, croyez à la vérité qui est en Jésus-Christ, ils ne croient pas, hein, ils veulent pas, ils ont peur ou je sais pas quoi, hein, mais c'est terrible. Alors écoute ma voix, la peur qui va résulter des conséquences, résultat de nos malversations, est une mauvaise conseillère. Oui, oui, la peur, il faut jamais écouter la peur. Attention, hein. Et c'est pour cela que les deux versets suivants nous disent en substance « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » Ah, moi, je trouve que c'est un texte extraordinaire. Ah ouais, quand même, hein. Moi, je m'offusque. Ben oui, de voir ça, vous vous rendez compte, elle est à l'origine de tous les problèmes, et finalement, eh bien, c'est son fils qui est coupable. C'est toujours terrible, hein, ça. Et pourtant une maman qui aime son fils, qui l'aime terriblement, qui l'aime passionnément, et elle l'enfonce. Alors moi, je dis que c'est plus de l'amour à ce moment-là, hein. Alors, il faut bien réfléchir parce que chaque chose mauvaise a ses conséquences. Mais là, va être prise au piège, hein, la brave Rebecca. C'est terrible ce qui se passe. Voilà l'insolence de la folie de Rebecca. Son aveuglement, les conséquences de son favoritisme passionnel, le pari risqué, qu'en voulant tout gagner, on finit par tout perdre, et en prime, la bénédiction va se changer en malédiction, et dont l'audacieuse témérité va jusqu'à faire porter la fosse entière à Jacob. Il va tirer vengeance de toi. Le mal que tu lui as fait. Écoutez, elle n'est pas conséquente, hein, Rebecca. Et vous savez, dans tout cela, si je prends le profil de Rebecca, si on la met un petit peu en relief, on s'aperçoit que ça fait partie de la nature humaine. Mais il faut faire attention. faut faire attention parce que il y en a un qui va manipuler tout cela contre nous. Et il veut faire tomber les enfants de Dieu. Et il y a des choses qui doivent disparaître dans notre cœur. Il y a des choses que nous avons besoin de nous placer devant Dieu, de faire un face-à-face avec le Seigneur, et de lui dire, Seigneur, peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a cela dans ma vie, mais moi je veux m'en débarrasser. Je ne peux pas m'en débarrasser, mais toi, si je te donne l'autorisation, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ, eh bien, vous avez vu, hein, c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui fait l'œuvre, mais faut-il lui ouvrir la porte et lui dire, mais Seigneur, eh bien, fais ton œuvre dans mon cœur, transforme-moi, change-moi. Et Rebecca, à ce moment-là, oublie qu'elle est la première responsable et elle se défausse sur Jacob comme si c'était lui, la cause du malheur annoncé, parce que le malheur va venir. Je vous en touchais deux mots avant de terminer. Ouais. Elle dit non, voilà. Elle fait finalement comme si elle n'avait pas été dans le coup. Et ce malheur-là arrive. Le verset 46 nous le dit. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie. » Eh oui. « À cause des filles de Heth, si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi bon me sert la vie ?» Parce qu'il s'agissait du mariage des deux garçons. Eh, les mariages. Seigneur, éclaire les familles, éclaire particulièrement ceux qui sont concernés. Naturellement, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où c'est les parents qui marient leur fils ou leur fille. C'est dangereux, ça. Parce que nous savons que nos enfants, quand ils arrivent à un certain âge, ils sont quand même libres du choix, bon ou mauvais. Bon, ça peut réjouir. Je suppose que ça réjouit le plus souvent possible. Mais ça peut faire pleurer aussi. Et là, elle est en train de pleurer. Et pourquoi dit-elle ça? On va le voir, c'est très facile à comprendre. Jésus nous dit... C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous savez, à la fin de certaines des paraboles, nous montrant finalement la conclusion des mauvais choix. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rebecca dit donc, je le rappelle, « Je suis dégoûtée de la vie à cause d'eux. » Elle cherche encore des prétextes et des excuses. Parce que Ésaü, c'est Ésaü, et Jacob, c'est Jacob. Chacun va faire son chemin, heureux ou malheureux, mais chacun va faire son chemin. Et donc, elle cherche des prétextes illusoires, inutiles, quand elle veut se donner à tout prix raison du mal commis, et dont elle s'obstine à ne pas reconnaître honnêtement l'amertume. La réponse, nous l'avons, parce que vous savez que la Bible se répond par elle-même, hein, j'ai pas besoin d'aller chercher dans d'autres livres. Dans Genèse, chapitre 26, figurez-vous, et on va le lire, verset 34, il nous est dit ceci, « Ésaü, âgé de 40 ans, il n'est pas tout jeune, hein, c'était un adulte, hein, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, c'est-à-dire un païen, voilà, on peut dire ça, un homme de pays de Canaan, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent, nous dit l'Écriture, un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ils avaient rêvé mieux pour Ésaü. Ah oui. Mais c'était le choix d'Ésaü. Remarquez, ce n'était pas un tout jeune, il avait quand même 40 ans. Hein. Ouais, c'était un vieux célibataire. Ouais, mais il a choisi. Mais il n'a pas choisi une fille du peuple. Il a choisi tout simplement, eh bien, les filles des nations, avec tout ce que cela pouvait comporter, avec toute la montanité, avec toute le paganisme qu'il pouvait y avoir. Ah, mais c'était fait. Hein. Il avait deux femmes. Hein. À l'époque, ça se faisait. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Mais bon, toujours est-il que les choses nous sont dites. Une faillite affective pour Ésaü, qui va faire la peine de ses parents, et non moins faillite pour Jacob à Padam Aram, vous connaissez l'histoire, vous connaissez bien votre Bible, hein, auprès de Laban, qui deviendra le beau-père, et le trompeur va être trompé. Je m'adresse à des gens qui connaissent bien l'Écriture. C'est l'histoire. Et là, ça va être une catastrophe. Un désastre pour les deux garçons, on en a parlé pour Ésaü, on en parle pour Jacob, un désastre sentimental entre les deux femmes légitimes de Jacob, entre Léa et Rachel. Rachel, celle qui avait de beaux yeux. C'est pas moi qui le dis parce que je l'ai jamais vue, mais c'est la Bible qui me le dit. Vous comprenez? Elle était envoûtante, la belle Rachel. Ah, Léa, c'était beaucoup plus différent, c'était peut-être différent. Jacob aimait moins Léa. Par contre, il avait une passion pour Rachel. C'était vraiment la femme de sa vie. Je peux vous dire qu'il en a vu. Il en a vu et il a dû certainement, eh bien, il a payé le prix fort. Vous savez le prix qu'il a payé pour avoir Léa d'abord. Enfin, il pensait avoir Rachel. Trompeur trompé, hein. On reste sur l'histoire, hein. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et le jour, quand il a voulu avoir Rachel, le jour des noces, le beau-père, c'est terrible de dire ça, le beau-père a mis dans son lit Léa. Et puis, bah vous relirez ça, hein, parce que c'est truculent, hein. Et il a travaillé encore, il a dit, mais tu m'as trompé. Tu m'as trompé, toi, Laban. Et pour avoir, le beau-père a dit, bah écoute, si tu veux avoir Rachel maintenant, tu travailles encore 7 ans pour moi. Donc ça lui a coûté 14 ans. Pour avoir 2 femmes. Mais il a travaillé gratis, hein, pour avoir 6 femmes. Terrible, hein. Ah oui. Eh oui. Et notre brave Rebecca, qui se dit, moi, je veux pas qu'il reste ici, parce qu'elle se justifiait de l'avoir envoyé au loin, pour pas qu'il soit tué par son frère. Mais la brave Rebecca, elle se disait, moi, je vais mourir si véritablement mon fils, mon petit chouchou, eh bien, se marie avec des païennes, là autour de nous, des cananéennes. Eh bien, moi, c'est terrible, une chose pareille. Alors, je vais l'envoyer dans la maison de mon frère, à Padamaram. Et qu'est-ce qu'il tombe? Sur le problème semblable. Vous savez que c'est de ces 2 femmes, plus les 2 servantes de cette femme, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Vous êtes au courant de ça? 12 tribus d'Israël, constitution de la nation d'Israël, enfin, en tant que nation, de peuple, voilà, en tant que peuple. Mais c'était quelque chose, quand même. Hein. Il en a vu. Il en a vu de toutes les couleurs. Et ce qu'il a fait à son père, notre Jacob, ce qu'il a fait à son frère, ses propres fils vont lui faire avec l'histoire de Joseph. Alors là, il va pleurer. Il va dire, je veux que mes cheveux blancs déchantent dans le séjour des morts, parce que je ne suis pas consolable. Et là, ses frères vont lui mentir sur l'histoire de Joseph. Ça va, vous suivez? Oui, ben c'est bien. Désastre sentimental. Une catastrophe. La conclusion sera la suivante. C'est cette pathétique espérance, cette inaccessible espérance au résultat définitif. C'est le mot que nous avons dans le verset précédent quand elle dit ceci, ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait et les 4 mots qui suivent, écoutez bien, c'est là-dessus que nous allons terminer l'histoire de Rebecca. Alors, je te ferai revenir. Après l'avoir fait partir, elle se dit, Rebecca, tu reviendras me voir. Tu reviendras dans la maison, dans notre maison. Ça sera ta maison, toi le fils prodigue. Je t'attends. Je dois être privé de toi pendant peut-être un certain temps, mais je te ferai revenir. Elle ne vivait que pour ça. Son petit préféré. Elle devait y penser tous les jours, toutes les nuits. Et que devient Jacob? Où est-il? Que fait-il? Parce que, à l'époque, il n'y avait quand même pas le portable et l'internet pour avoir des communications. Padamaram, c'était complètement en Mésopotamie. Hein. Non, elle n'avait plus entendu parler de lui. Et elle devait souffrir comme une mère qui a perdu son fils. C'est comme s'il était mort parce qu'il était si loin. Mais elle avait tout fait pour qu'il aille loin. Elle avait tout fait pour que tout casse. Elle avait tout fait pour casser tout, en quelque sorte. Jamais. Et jusqu'à sa mort, et ça c'est le drame, jamais et jusqu'à sa mort, Rebecca n'a revu Jacob. Lisez la suite du récit. Elle est morte avant. Elle est morte longtemps après. Mais tout le reste de sa vie, elle n'a jamais revu le visage de celui qu'elle aimait passionnément. Et c'est elle qui avait tout cassé. Son fils bien-aimé, son favori. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début du message? Je vous ai parlé de Rebecca et de la signification de son nom, nœud coulant. Elle porte bien son nom. Et le nœud coulant s'était à jamais resserré sur son cœur. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'important dans tous ces messages que nous partageons ensemble. C'est que les histoires qui nous ont été données, c'est pas des contes et des légendes. Ce sont des choses qui servent à notre instruction aux uns et aux autres. Et que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir les entendre. Alors j'ai parlé de Rebecca, mais ça vaut aussi pour un homme, que les hommes nous sommes les uns et les autres. avec nos passions, avec nos élans et toutes sortes de choses qui peuvent nous caractériser. Ouais, le nœud coulant s'était resserré sur son cœur. Elle n'a jamais revu son fils. Et pourtant, elle avait dit « Je te ferai revenir ». Je termine par une citation du livre des Proverbes qui nous dit ceci, écoutez bien. Je pense que c'est une bonne conclusion, chapitre 1er au verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, dit Dieu, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Elle est passée toutes les barrières, hein, Rebecca. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais Dieu soit béni, écoutez la suite. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute, Seigneur, donne-moi de t'écouter. Donne-moi de pas être fou au point de zapper ce que tu me dis. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous savez, il y a un bien. Plus nous vieillissons, plus nous en sommes conscients. Il y a un bien qui est au-dessus de tous les biens, qui est à notre portée pour chacun d'entre nous. C'est vivre en paix. Ouais. La paix. La paix dans nos pensées, la paix dans notre conscience, la paix dans notre âme, la paix du cœur, la paix avec Dieu, la paix avec mes frères et mes sœurs, la paix avec tous ceux qui sont autour de moi, proches ou lointains. C'est la paix, c'est important. Alors que Dieu nous bénisse ce matin à travers tout cela, j'ai essayé de vous présenter un petit peu, ça a été décortiqué. Enfin, je suis resté quand même sur le texte, mais toujours est-il qu'il y a quand même des leçons à prendre de tout ça, et que Dieu nous bénisse, et moi, je voudrais que vous soyez bénis par la grâce du Seigneur, dans la grâce du Seigneur, pour vivre une vie tranquille et en sécurité. Alors on va prier quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que, en nous approchant de toi ce matin et après réflexion de cette parole que tu as bien voulu nous donner, pour chacun, pour moi-même, eh bien, combien nous avons besoin de nous replacer devant toi et de te demander, Seigneur, que tu nous donnes cette sagesse d'en haut pour comprendre qu'en effet, Seigneur, c'est nous-mêmes qui construisons l'édifice de notre existence, pierre après pierre. Que nous construisons, Seigneur, cette vie nouvelle. Que nous construisons nos relations avec toi, que nous construisons nos relations avec les autres, et en particulier avec les frères qui sont dans la foi, avec notre mari, notre femme, avec nos propres enfants que nous aimons, à travers peut-être des inconnus qui sont à même de nous rencontrer ou d'avoir une relation avec nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-nous de tenir pour le plus grand bien, la paix de ton esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Je te prie pour les frères et les sœurs qui peut-être se sont trompés de chemin à un moment ou à un autre. Mais je te prie, Seigneur, pour que véritablement tu les en délivres. Que tu leur donnes, Seigneur, eh bien cette modestie et cette humilité, contrairement à Rebecca, de ne pas s'entêter ou de s'obstiner en disant « j'ai raison ». Seigneur, voulons-nous tenir devant toi et nous croyons que tu passes dans les rangs maintenant. Tu passes dans nos vies, dans nos cœurs, tu es au milieu de nous dans cette salle et tu veux nous enseigner par ta parole les grandes vérités pour notre bonheur. Seigneur, nous pouvons tous commettre des erreurs. Nous pouvons tous penser que ce que nous croyons, ce que nous pensons est bien et que quelque part, eh bien, nous nous trompons. Seigneur, délivre-nous du favoritisme. Délivre-nous, Seigneur, de la curiosité malsaine. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces intrigues qui fonctionnent si bien dans le monde, mais dont nous n'avons pas recours, où il nous est interdit de recourir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas travestir la vérité, Seigneur, et la changer en mensonge, et que nous croirons comme vérité plus tard. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, tu es venu, Seigneur, véritablement pour nous aider. Je te demande que par l'action de ton Saint-Esprit, nous puissions peut-être faire le point là où nous avons raté la route. Mais il est toujours temps de repartir. Il est toujours temps de recommencer. Il est toujours temps de te demander pardon. Il est toujours temps de nous repentir. Et ainsi, moi, ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre nous, devant peut-être certains échecs, certaines portes qui se ferment et dont nous ne savons plus ouvrir parce que nous avons perdu la clé, Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, afin que tu nous fasses grâce, et que nous retrouvions la paix, que nous retrouvions la sécurité, et que nous puissions être nous-mêmes bénis à nouveau, et ainsi Seigneur, donner cette bénédiction à tous ceux qui en ont besoin. Parce que c'est cela Seigneur, la bénédiction elle n'est pas pour nous tout seuls, d'une manière égoïste, mais béni que je puisse être, je puisse la donner aux autres comme le plus grand cadeau de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.